Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine hebdomadaire de l'économie et de la finance et de l'inquiétude avec ce qui se trame actuellement en Chine, à Shanghai et à Shenzhen. Deux grandes villes, les deux plus grandes villes chinoises, tout à fait importantes pour l'économie du pays et qui sont confinées pour lutter contre une nouvelle vague de la Covid-19. Cela impactera nécessairement les chaînes économiques de la Chine qui demeure à ce jour la grande usine du monde. Et cela inquiète les marchés financiers parce qu'on se demande dans quelle mesure, d'abord dans un premier temps, ces confinements vont rester circonscrits à ces deux grandes villes. Est-ce que ça ne va pas se développer sur l'ensemble du pays? Et puis concrètement, en termes de monnaie sonnante et trébuchante, quel en sera l'impact sur l'économie chinoise et surtout sur les exportations chinoises? En tout cas, on est toujours dans un contexte haussier face à l'inflation. La Fed et la BCE ont augmenté encore leur taux d'intérêt. Ils n'arrêtent pas d'augmenter leur taux d'intérêt, toujours dans l'espoir de pouvoir juguler cette inflation. Maintenant, cela fait que l'argent est devenu de plus en plus cher. Il est devenu extrêmement difficile d'emprunter. Donc, c'est difficile aussi pour innerver les entreprises qui ont besoin d'apports financiers. Il faut trouver des moyens pour s'arranger, pour essayer de monter des business models. Mais ça devient de plus en plus compliqué compte tenu de la cherté de l'argent. Avec, en plus de cela, en transparence, toujours beaucoup de tensions sur le secteur alimentaire et la crise ukrainienne qui est toujours aujourd'hui un facteur haussier pour ce qui est du prix des denrées, notamment sur les céréales. Et puis la protection sociale au cœur du débat en France avec le ministre de l'économie qui a annoncé une réduction des dépenses budgétaires de l'État. C'est vrai qu'il faut réussir à financer le système social français qui est un système qui a beaucoup inspiré dans le monde mais finalement peu de pays l'ont adopté. C'est aussi un marqueur de l'entité politique, économique et sociale française. On va en parler avec Christophe Boutin de l'Institut du Pont-Neuf. Christophe Boutin qui connaît à la fois très bien la France, mais aussi très bien le Maroc. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous, Christophe Boutin. Aujourd'hui, ce modèle social en France, Christophe Boutin, aidez-nous à mieux comprendre quelles sont les difficultés qui sont les siennes.
Écoutez, ce modèle, effectivement, pose des problèmes. Je vous rappelle que le caractère social en France, c'est 31% du PIB. À partir du moment où on est devant le Danemark, devant la Finlande, à partir du moment où la moyenne européenne, c'est 27% du PIB sur les dépenses sociales, vous voyez que la France, ici, fait un énorme effort. Oui. Cet énorme effort, il est appuyé sur une méthode de répartition, en partie au moins pour tout ce qui est l'assurance vieillesse. Il est pris sur des prélèvements qui sont à la fois les prélèvements sociaux des entreprises, des prélèvements sur les salaires. Bref, il y a une énorme, ici, demande qui ne répond pas, très sincèrement, actuellement, qui ne répond pas à l'ampleur du programme social qui est peut-être vu de manière trop vaste ou trop importante. On assiste donc très régulièrement depuis quelques années à des petites coupes, des coupes secondaires, c'est-à-dire qu'on va moins rembourser, on va dérembourser une partie des médicaments par exemple. On va d'abord essayer sur certains éléments sociaux, je pense à l'assurance retraite bien sûr, on va repousser l'âge de la retraite. Donc le gouvernement a bien conscience que son système actuellement n'est absolument pas stable. Il nous manque à peu près 10 milliards d'euros en déficit de sécurité sociale. Il nous manque 6 milliards d'euros en déficit vieillesse. Vous voyez qu'effectivement, le système est peut-être trop vaste. En tout cas, il est à revoir.
Mais est-ce que ce n'est pas extraordinairement compliqué lorsque un modèle comme celui-ci est à revoir, comme vous dites? Alors effectivement, ajustement, il peut y avoir de façon très ponctuelle parce que finalement, ça ne remet pas en cause l'idée, le concept même de ce système. Mais est-ce que les fondamentaux, comment faire pour les reprendre à zéro? Est-ce qu'il faudrait tout arrêter, tout recommencer? Ce qui serait certainement impossible pour bon nombre de personnes qui vivent avec ce système de solidarité. Comment faire finalement pour le réformer en profondeur? Est-ce qu'on pourrait le faire pour l'adapter aux défis du jour?
Écoutez, bien sûr qu'on peut l'adapter. Par exemple,
Christophe Boutin, réformer. Est-ce qu'on peut le réformer?
Oui, par exemple, le cas d'assurance vieillesse. On va prendre ce cas-là, si vous voulez, une assurance vieillesse par répartition. On pourrait mettre une part de capitalisation petit à petit, plus ou moins grande, qui permettrait peut-être de résoudre la question. Mais je crois que Dans tous ces systèmes de protection sociale, il y a une question préalable. Ça ne sert à rien de chercher à combler un déficit sans avant se poser la question de savoir d'où vient ce déficit. Oui. Et je crois que c'est ici un petit peu l'erreur de la France en la matière. C'est-à-dire qu'on ne met pas à plat la question des dépenses sociales parce qu'il y a des éléments qu'on ne veut peut-être pas voir. Et à partir du moment où on ne veut pas voir ces éléments, on s'interdit d'avoir une démarche cohérente qui sera une démarche, effectivement, comme vous le dites très justement, qui s'interdit de toute manière d'éliminer tout pour repartir à zéro.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle des acquis sociaux, il y a des gens qui ont cotisé pendant des années et des dizaines d'années, il y a des entreprises qui ont été amenées à, là aussi, payer pendant des années et des dizaines d'années. On ne peut pas dire d'un seul coup à tous ces gens-là, vous allez rire, on repart à zéro. C'est absolument hors de question.
Mais aujourd'hui, quels sont les points de vulnérabilité, de faiblesse de ce modèle? Alors, allez-y, dites-nous les choses, le cœur sur la main, avec l'honnêteté intellectuelle qui est la vôtre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas fondamentalement?
Le système a été peut-être étendu un petit peu trop largement, c'est un premier élément. On manque d'éléments de contrôle, c'est un deuxième élément. Mmh. Alors, on a tendance très régulièrement à évoquer la fraude comme étant un élément qui porte atteinte à notre système de protection sociale. Je crois qu'il faut ici être prudent, limiter les choses. La fraude ne relève pas, enfin, ici, elle existe bien évidemment comme partout. Il faut des contrôles sans doute peut-être plus précis à partir du moment où il y a une véritable crise du financement. Pour autant, la fraude en elle-même n'explique pas l'ampleur du déficit. Il y a bien un problème d'équilibre général sur le sujet. Bien sûr, le fait que les gens vivent plus longtemps,
oui,
et donc avec des maladies, qui sont des maladies de plus en plus lourdes à soigner au fur et à mesure que l'âge avance, cela ne peut que peser sur les dépenses sociales, c'est un deuxième élément de réponse. Le troisième élément de réponse, c'est de savoir pour qui on met en place une politique sociale. Une politique sociale, c'est une politique qui vise à éviter les aléas de la vie aux membres d'une communauté, éviter, oui, que les gens se retrouvent finalement
bien
sans
sûr
rien. D'ailleurs, je vous rappelle que l'assurance sociale, ça va au-delà de la retraite, ça va au-delà de la santé, ça envisage bien d'autres éléments, le chômage, pour prendre cet élément classique. Et donc la véritable question ici, c'est de savoir pour qui on est prêt à payer, et s'il n'y a pas ici un problème d'extension trop vaste, disons-le très clairement, des politiques sociales à des gens qui ne font a priori pas partie initialement de la communauté nationale et qui viennent sur le territoire et qui bénéficient ici immédiatement d'aides très importantes et certains le pensent actuellement trop importantes.
Alors il y a une boutade qui a existé pendant très longtemps, vous allez nous dire si elle est toujours d'actualité. On disait la sécurité sociale c'est le meilleur système du monde, enfin le système français c'est le meilleur système du monde, mais paradoxalement personne n'en veut. Bon, c'est vraiment une boutade parce que des systèmes sociaux il y en a beaucoup, il y a vraiment en fait un benchmarking qui peut être opéré. Quelles sont les bonnes idées à récupérer de ce système social français, parce que tout n'est pas acheté par la fenêtre, bien évidemment. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les éléments d'intérêt qui pourraient être source d'inspiration pour d'autres pays, et quelles sont les erreurs à ne pas recommettre?
Écoutez, dans un système qui est le système occidental que l'on connaît, qui est un système, oui, dans lequel il y a une individualisation sociale, je veux dire qu'on ne vit plus de manière communautaire, on vit de manière individuelle, cela oblige effectivement, quoi qu'on en pense, l'État à intervenir pour permettre de pallier les aléas de la vie qui peuvent frapper tel ou tel individu. Autrefois, ces aléas de la vie étaient compensés par la famille, étaient compensés par la communauté. C'est la famille, c'est la communauté qui prenait en charge la personne âgée, la personne malade, la personne au chômage, et qui lui permettait de traverser cette période de crise. Dans le monde individuel dans lequel nous sommes, effectivement, on peine un petit peu à voir apparaître cette solidarité, y compris parfois familiale, de manière très, très étonnante. Il faut parfois forcer juridiquement les familles à exercer cette solidarité, et donc c'est à l'État d'intervenir. C'est à l'État d'intervenir en permettant à une personne de vivre dignement. Je crois que c'est aussi un mot clé en la matière des politiques sociales, les questions de dignité. C'est d'ailleurs pas quelque chose qui est apparu récemment. La question du juste salaire, tel qu'il a été développé par des auteurs d'ailleurs de droite, monarchistes français, à la fin du 19e siècle, le juste salaire, c'est ce qui permettait de se nourrir décemment, de se loger décemment, et aussi d'économiser un peu, soit pour devenir propriétaire, soit pour penser à sa retraite. Vous voyez, on est dans cet élément-là. Mmh. Alors, le problème que l'on a, c'est que on a petit à petit substitué à cette initiative individuelle, ou du moins à ce rapport de force entre le salarié et son patron, on a introduit là-dedans un tiers, qui est l'État, qui vient prendre de l'argent au patron pour le redistribuer, redistribution qu'il s'agit, auprès des salariés. Ce système est un système qui est nécessairement beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe, par contre, il est absolument nécessaire, encore une fois, je crois, dans le monde tel que est le monde dans lequel on vit, qui est un monde d'hyper-individualisme, il faut qu'il y ait cette solidarité pour éviter que les aléas de la vie ne mettent à mal certaines personnes qui font partie de notre communauté et que nous devons aider en cas de problème.
Mais ce qui est quand même incroyable, Christophe Boutin, c'est que ce sont finalement les pays les plus riches qui peuvent mettre en place ce système de solidarité par répartition, parce que c'est ainsi qu'il s'appelle. Et finalement, il est totalement paradoxal que les pays les plus pauvres, eux, n'ont pas les moyens de mettre en place ce système de solidarité. C'est, bon, ça peut s'expliquer, mais c'est quand même, on a quand même le sentiment que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Oui, mais le système par répartition que vous évoquez est un système qui est actuellement en train de basculer parce qu'il repose, si vous voulez, sur une pyramide démographique qui est en train de s'inverser chez nous. Et à partir du moment où vous avez quatre actifs, si vous voulez, pour subvenir aux besoins de 1 à 2 retraités, les choses sont faciles. Quand vous avez un actif qui subvient aux besoins de 4 retraités, les choses deviennent par la même quasiment impossibles. Tout le monde le comprendra. Donc, c'était adapté à une époque. Cela devient de moins en moins adapté à cause de l'évolution démographique qu'on a évoquée.
Alors, vous supposiez l'idée que c'est en train de basculer, qu'on est en train de se tourner vers un autre système, quelque chose d'autre. Est-ce que vous auriez quelques éléments pour nous faire appréhender, nous aider à appréhender ce que pourrait être, par exemple, d'ici 15-20 ans, un système de solidarité en intégrant tous les éléments que vous avez présentés depuis le début de cet entretien?
Le système de solidarité peut, au lieu, si vous voulez, de tout transférer à l'État et d'avoir ensuite cette redistribution, on peut avoir des systèmes intermédiaires dans lesquels on a un système qui est à la fois de répartition et de capitalisation et dans lequel l'État aide l'individu qui ne le peut pas, pas si facilement, à capitaliser. En lui donnant par exemple une prime, à chaque fois qu'il capitalise, si vous voulez, l'État apporte une prime d'un montant variable qui augmente cette capitalisation, cet effort que fait la personne pour préparer sa retraite ou participer aux dépenses de sécurité sociale. Vous voyez, c'est un système dans ce cas-là un petit peu intermédiaire. Tout ne repasse pas par l'État, tout n'est pas contrôlé par l'État. La personne s'investit elle-même. Je crois que en la matière, il faut... Alors bien sûr, il y a la notion d'acquis sociaux sur lesquels il est particulièrement difficile de revenir psychologiquement, on le comprend très bien. Mais je crois que la notion de prise en main, si vous voulez, des individus de leur propre destin est quelque chose qui doit jouer aussi en matière de protection sociale. On ne peut pas laisser des gens totalement irresponsables se faire prendre en charge et se faire prendre en charge parce que des gens responsables, eux, ont engagé une démarche qui le permet. Il doit y avoir un équilibre dans la société et effectivement que les riches doivent aider les moins fortunés à justement se préserver des aléas sociaux, c'est tout à fait naturel. Mais je crois que chacun d'entre nous doit avoir conscience de l'effort qui doit être fait et d'avoir conscience de cette participation. Vous voyez, ce que l'on peut reprocher peut-être au système que l'on connaît dans cette préemption totale de la répartition par l'État, c'est finalement une déresponsabilisation lente mais claire des individus.
Mais pourquoi, alors souvent, on prend en exemple les modèles sociaux scandinaves, parce qu'ils sont différents les uns des autres. La Norvège n'est pas la Suède et ce n'est pas la Finlande. Ils sont différents des autres, enfin ils sont différents les uns des autres, mais souvent ils sont pointés comme étant des éléments de réussite. Alors est-ce parce qu'un pays comme la Norvège, par exemple, a des rentrées en énergie fossile grâce à ces ventes de pétrole qui sont absolument colossales. Je crois que même les Norvégiens n'ont quasiment pas touché à la manne financière qui leur est rapportée par le pétrole. Est-ce parce qu'ils n'ont pas de problème d'argent que ça fonctionne ou est-ce que le modèle en lui-même est mieux approprié?
Alors, c'est un modèle nordique Je dirais volontiers presque que c'est un modèle protestant aussi. Oui. C'est un modèle de communauté avec une solidarité particulière au sein de ces communautés. Mmh. Mais ce modèle nordique que vous évoquez, à part peut-être le cas de la Norvège, et encore, hein, le cas Norvège effectivement est richissime, mais le modèle nordique globalement est lui aussi percuté par les mêmes problèmes que ceux qui percutent, je dirais, l'ensemble des modèles sociaux des pays de l'Union européenne actuellement. C'est-à-dire que la question se pose au vu des déficits, au vu des troubles budgétaires qu'il y a aussi hein, dans les modèles sociaux nordiques, la question se pose de savoir où va l'argent et si la solidarité n'a pas été étendue de manière excessive à des populations qui viennent sur les territoires en question, d'ailleurs de manière plus ou moins légale, ce qui pose encore un problème, et pour profiter de cette aide sociale alors qu'a priori ils n'ont participé en rien à la communauté et qui n'y participe en rien.
Alors le Maroc a décidé de réfléchir, de lancer, de se donner les moyens de fonder, d'initier donc un système de solidarité. Alors c'est un véritable enjeu, c'est un véritable défi, hein, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas simple, qu'il y a quand même chaque pays est différent en plus, donc la spécificité marocaine n'est pas la spécificité finlandaise, tout simplement tout cela est différent. Vous avez eu bien évidemment, vous connaissez parfaitement bien le Maroc, Christophe Boutin, au regard des éléments que vous nous avez transmis, votre regard, votre appréciation sur ce projet marocain qui se décline maintenant depuis plusieurs mois et qui est bien évidemment très attendu hein, par la population, parce qu'il y a des désirs, il y a des envies que tout cela se mette en place. Quel est votre ressenti, Christophe Boutin ?
Écoutez, je crois que l'évolution justement que connaît le Maroc correspond aussi à une évolution sociétale. J'évoquais tout à l'heure le passage d'une société holiste, d'une société communautaire, d'une société où les liens familiaux sont des liens très forts, les solidarités sont très importantes à ce niveau-là, à une société finalement beaucoup plus individualiste. Et on peut se demander si le Maroc n'est pas en train d'évoluer petit à petit, avec cependant encore une fois une image communautaire beaucoup plus forte que celle qu'on peut rencontrer dans nombre de pays occidentaux, une force de la famille, une force des réseaux familiaux qui permet justement un soutien en cas de problème. Mais si le Maroc ne se rend pas compte qu'il est en train d'évoluer avec une part d'individualisme et donc de mettre en place cette sécurité sociale, ce soutien social, cette aide sociale, quel que soit le nom qu'on lui apporte, au niveau étatique. La question ici va être de savoir comment le tissu industriel, notamment, va accepter de collaborer à cette mise en place, car c'est bien sûr, on peut envisager de prendre des éléments sur les parts de salaire, mais la cotisation des entreprises est ici un élément crucial à envisager. Je crois que c'est effectivement de ce sens-là qu'on est en train d'y réfléchir.
Oui, sachant que c'est très difficile aussi parce qu'on est quand même sur des pays... Alors, je ne parle pas seulement du Maroc, mais il y a beaucoup de pays qui ont quand même des micro-entreprises ou des petites entreprises hein, qui sont parfois formelles ou parfois aussi informelles. Donc il y a l'enjeu de la bancarisation, l'enjeu de la fiscalisation de ces activités professionnelles qui sont excessivement importantes hein, parce que c'est de l'emploi, c'est de l'hyper-proximité, les gens cèdent, entraide pour vivre. Et on a le sentiment que le gap, que le passage est quand même extrêmement difficile. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais c'est quand même un enjeu sociétal au sens premier du terme, au sens global du terme, que de réussir finalement à passer ces trois étapes, être dans la formalisation totale de l'activité, être dans la fiscalisation, la bancarisation et participer à la solidarité. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup pour certains, en tout cas pour les personnes les plus pauvres.
Oui, et en sachant, comme vous le dites très très justement, que le passage, cette visibilité, je dirais, financière d'une économie qui est parfois une toute petite économie, une économie informelle, a des effets négatifs, pervers, qu'il ne faut pas négliger aussi. Cela peut nuire à cette économie de proximité, à cette économie informelle, qui est un élément essentiel de subsistance pour les zones les plus pauvres.
Sachant que, s'il y a encore une fois, je ne parle pas spécialement du Maroc, mais c'est vrai que souvent, l'informel a une connotation péjorative, mais souvent l'informel c'est parce que les gens ils sont coincés, ils y restent et parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Enfin, c'est toujours cette bonne vieille histoire, tout le monde rêverait de payer des 1000 et des 100 aux impôts parce que ça voudrait dire que leur situation professionnelle est telle qu'effectivement ils peuvent se permettre de payer des sommes considérables à la fiscalité. Maintenant aujourd'hui en termes de la souveraineté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont des idées qui sont fortes hein, qu'on voit aussi émerger en Europe, la souveraineté des modèles sociaux, la souveraineté des idées, la la souveraineté des initiatives. Est-ce que c'est une force d'être un pays pour qui cette notion de souveraineté est importante quand on veut se lancer dans un défi comme celui de la solidarité sociale avec des coûts et une économie adéquate?
C'est un problème important, mais vous comprenez bien tout le sens de la question que vous posez, d'ailleurs, oui. Et je n'en doute pas. Qui est souverain? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Lorsque l'on veut mettre en place une souveraineté, encore faut-il savoir ce que veut dire cette souveraineté. Autrement dit, qui fait partie du groupe initial,
d'accord,
qui peut être ensuite intégré dans ce groupe initial et avec quelles limites? Ça, c'est un point absolument essentiel. La souveraineté ouverte à tous les vents n'existe pas par définition. Souveraineté de quelqu'un dans un ensemble global. Et sans cette définition, il n'y a pas de souveraineté valable.
D'accord, mais c'est quand même important. Enfin, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui le... Parce que la solidarité, c'est ça, en fait, votre idée, Christophe Boutin, c'est que la solidarité, dans quelques pays, que ce soit dans le monde, ne peut pas s'ouvrir aux quatre vents. En gros, c'est votre idée, c'est ça.
Ah, c'est très clair. On est solidaire des gens que l'on connaît, et lorsque l'on accepte de donner pour aider quelqu'un, on aide quelqu'un qui fait partie en quelque sorte de sa communauté, au sens très large du terme. Hein. Il n'y a pas du tout ici de vision hyper nationaliste ou quoi que ce soit.
Oui, mais ça, bien sûr.
C'est un élément très, très classique que l'on connaît tous. On aide, entre guillemets, nos proches et ceux que l'on ressent comme étant nos proches. Si je décide, par exemple, d'avoir une place à table supplémentaire pour pouvoir accueillir un pauvre, c'est moi qui décide à ce moment-là du pauvre que j'accueille. Si quelqu'un rentre par la fenêtre pour venir dîner, à ce moment-là, il y aura un problème.
D'accord. Et dernier point sur lequel j'aimerais vraiment vous entendre, Christophe Boutin, c'est celui de la notion de structuration sociétale. Dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut dire que établir un système de solidarité nationale, est-ce que, dans quelle mesure ça aide, on peut aussi se dire que ça n'a quasiment pas d'impact, hein, vous nous répondez ce que vous voulez, mais dans quelle mesure cela aide-t-il à la cohésion d'une nation? Parce que c'est une idée qui aujourd'hui est très importante dans ce monde très interconnecté qui est le nôtre, où chacun a envie aussi de ne pas se perdre soi. Dans quelle mesure cette solidarité nationale est-elle un outil pour la cohésion nationale?
C'est une excellente question, mais nous sommes ici pas très loin de la célèbre question de l'œuf et de la poule.
Ouais.
Je veux dire par là, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la solidarité nationale crée la nation, vous voyez, c'est-à-dire que le fait qu'existe cette solidarité va créer un sentiment particulier, un sentiment national, et donc va créer une nation, première hypothèse, ou seconde hypothèse, la solidarité nationale ne peut exister que s'il y a déjà auparavant l'impression de faire partie d'un même groupe, l'impression de faire partie d'une nation, l'idée, la volonté en plus de vouloir continuer cette nation dans le futur. Voilà, c'est les deux hypothèses. Je pense sincèrement que les deux coexistent en même temps.
Oui.
C'est-à-dire que je ne crée pas une nation uniquement sur une base de sécurité sociale ou d'alliance sociale,
d'accord,
entre des individus qui viendraient de tout et de n'importe où. C'est pas possible. Voilà.
Ça tient pas,
et inversement, une nation a besoin de cette solidarité pour continuer à se voir comme nation.
D'accord. Et toute dernière question, Christophe Boutin, parce que c'est un vrai plaisir de vous entendre. Quelle est la résilience économique? Je ne sais même pas si cette expression existe, mais quel est le niveau d'acceptation qu'un ministre de l'économie, marocain, français, chinois, russe, peu importe, vénézuélien, pourquoi pas, quelle peut être sa résilience face au coût de ce système de solidarité? Parce qu'il y a un moment donné, un ministre de l'économie, et ce n'est pas lui faire injure que de dire cela, c'est un homme qui est face à un tableau Excel, il fait des comptes. Il faut que ça rentre, il faut que tout se passe bien. La résilience est importante aussi, la capacité à tenir dans le temps, à résister pour protéger son système de solidarité. Aujourd'hui, on peut le calculer, on peut le réfléchir, parce que c'est vrai qu'on peut aussi se dire, il y a des gens qui vont lâcher l'affaire au dernier moment en disant bon, on n'y arrive pas, on oublie et c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, cette notion de résilience face à la difficulté à mettre en place ce système.
Oui, c'est toute la difficulté, effectivement, de maintenir un tel système sur la durée, en sachant qu'il y a de toute manière des aléas. Voilà, il y a des périodes plus ou moins sombres, plus ou moins heureuses, il y a des aléas particuliers. Prenons l'aléa de la crise Covid, pour prendre cet exemple très, très évident, et les impacts que cet aléa a eu de manière très spécifique sur, d'abord, le fonctionnement économique. Et donc, puisque cette sécurité sociale a besoin d'un fonctionnement économique correct pour ensuite être financée sur la sécurité sociale, c'est très clair. Mais en dehors de ces aléas qu'on espère limiter, il y a effectivement l'idée d'une limite, hein, d'une limite, vous l'avez très, très bien définie, d'une limite que le ministre de l'économie se doit d'avoir. Il ne peut pas tout financer et il y a un moment où, de toute manière, les solutions sont les solutions classiques. Soit il augmente les charges sociales, soit il augmente les impôts, soit il diminue les prestations. Voilà, parce que ce seront les seules solutions qu'il a à sa perspective. Diminuer les dépenses ou augmenter les recettes. Et augmenter les recettes, au bout d'un moment, vous avez tout à fait raison, en parlant de cette question de résilience, il y a un moment où les gens n'acceptent plus, même dans l'hypothèse d'une amélioration ou d'un maintien, ils ne peuvent plus supporter la pesanteur de la pression fiscale, parce que cette pression fiscale vient obérer d'autres dépenses obligatoires. Je prends notamment le cas de la France. Actuellement, la pression fiscale pose des problèmes parce que la dépense en termes de logement a flambé au cours des dernières décennies.
Voilà, on va revenir au monde arabe avec la situation qui est toujours tout à fait préoccupante à Gaza. Il y a toujours une situation humanitaire absolument désastreuse avec des combats qui se poursuivent, ce qui rend l'accès à l'aide humanitaire absolument essentiel. Qui plus est, nous avons une enclave palestinienne qui, depuis la mi-octobre, est quasiment à l'arrêt. C'est-à-dire que l'économie gazaoui, qui était déjà en grande difficulté aujourd'hui, est quasiment devenue atone. Il faut absolument aider cette enclave et c'est ce qui a été décidé par le Maroc qui a acheminé cette semaine 40 tonnes d'aide humanitaire par voie terrestre. C'est un geste significatif. Je vous propose d'entendre à ce sujet les précisions de Mounia Belarbi.
Plus de 40 tonnes d'aide alimentaire essentiellement, dont plus de 16 tonnes de lait pour les enfants. Une aide qui vise prioritairement d'ailleurs les enfants, mais aussi les femmes et les personnes âgées. Et qui coïncide cette aide avec le début du mois sacré de Ramadan. A noter que le roi Mohamed VI a tenu à prendre en charge personnellement et sur ses deniers privés une grande partie de cette aide, en particulier celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Une aide qui constitue en outre une véritable percée humanitaire. Le Maroc est en effet le premier pays à opérer sur cette voie terrestre jusqu'à présent. Les aides destinées aux Gazaouis depuis le début du conflit passaient soit par l'Égypte via le passage de Rafah, soit elles étaient larguées par avion, ce qui comporte des risques, notamment la destruction des denrées et la chute de cargaisons qui causeraient des victimes parmi la population. D'où le choix de la voie terrestre et, c'est inédit, la cargaison marocaine a été transportée par des avions marocains jusqu'à Tel Aviv, puis convoyée vers la bande de Gaza et le point de passage de Kerem Shalom.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver la semaine prochaine. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.